Interprétation du Coran. C'est une tradition bien ancrée dans l'islam que de commenter ces écritures saintes. C'est ce que l'on appelle le tafsir, un mot qui signifie « explication ». Les interprétations ont commencé avec Mohammed, répondant à des questions de ses disciples. Ainsi, Aïcha, la jeune épouse de Mohammed, l'a entendu dire « Celui qui devra rendre des comptes sera puni ». Aïcha a corrigé Mohammed en citant la sourate 84. Il sera soumis à un jugement facile, impliquant un jugement moins sévère pour les pécheurs. Le commentaire traditionnel commence par la sourate 1.1 et examine tous les versets les uns après les autres. Le commentateur doit citer le verset en entier, puis l'étudie en le scindant en unités de sens et présente ses réflexions sur chaque expression. Cela permet d'élucider le sens des mots et des expressions, mais ne permet pas de donner une interprétation globale du texte dans son intégralité. L'auteur explique tous les mots et éclaircit certains points de grammaire, mentionne l'occasion de la révélation si une tradition appropriée existe, inclut des commentaires appropriés liés au passage concernant Mohammed, ses compagnons ou ses successeurs, et renvoie à d'autres passages du Coran qui contribuent à expliciter le verset qu'il étudie. Il peut préciser les implications juridiques ou rituelles du passage en question, ou discuter les questions philosophiques et théologiques qui en découlent. Le théologien peut également faire des observations rhétoriques. Il n'expliquera pas le passage en fonction du contexte historique ou n'essaiera pas de le rapporter à son propre temps. Le commentaire d'At-Tabari, 839-923, en 39 volumes, est l'un des commentaires les plus importants. At-Tabari opère une distinction entre les versets que chacun peut comprendre, ceux que seul Dieu peut comprendre, et ceux que le lecteur ne peut comprendre que parce qu'ils ont été expliqués par Mohammed. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que de l'interprétation exotérique, Zahir, qui traite simplement de la signification littérale en surface du texte. Dans le passé, nombreux ont été les musulmans qui ont fait remarquer que le texte était lisible à plusieurs niveaux et qu'il avait aussi un niveau de sens caché ou ésotérique. Cette interprétation plus en profondeur du sens caché s'appelle le ta'wil. Si certains penseurs sunnites, plutôt attachés au sens littéral, ont rejeté cette idée du ta'wil, d'autres chez les sunnites ont reconnu la légitimité de ce type d'interprétation et ont même fait remarquer que le Coran prévient parfois que la clé de tel ou tel passage réside dans son sens caché. Les exégètes soufis, les mystiques, ont souvent minimisé la valeur du sens littéral, privilégiant une interprétation allégorique visant à illuminer le sens spirituel du texte. Les exégètes chiites ont mis l'accent sur le sens intérieur, batin, transmis par Ali, puis par tous les imams chiites qui, à la différence des exégètes sunnites, ont la faculté de fournir de nouvelles interprétations des textes. Pour les soufis et les chiites, cette signification intérieure est souvent plus pertinente que la signification extérieure du texte. Le concept de l'abrogation, nask, signifie que Dieu a révélé quelques versets du Coran qu'il a annulés, abrogés ultérieurement. L'abrogation s'est révélée particulièrement utile dans deux cas de figure particuliers. Cas où deux versets du Coran sont en conflit l'un avec l'autre. Exemple où la loi islamique fondée sur la tradition et les coutumes est en conflit avec des affirmations contenues dans le Coran. Pour aller plus loin, on trouve dans le Coran trois passages, sourate 206, 22-52, 16-106, qui justifie le recours à l'abrogation, dans la mesure où l'on trouve le terme de « nask » ou un synonyme employé dans le texte pour indiquer un verset qui a été supprimé par Dieu ou remplacé par d'autres. La sourate 22-52 est habituellement considérée comme se rapportant à l'épisode des versets sataniques, voire chapitre 5, en faisant allusion au verset où l'existence de trois déesses est révélée à Mohammed par Satan et non par Dieu. Sourate 53-19. Dieu a par la suite annulé cette révélation. Du 8e au 11e siècle, les théologiens ont eu l'habitude de dresser des listes de versets abrogés et abrogeants. La liste la plus ancienne que l'on connaisse comporte 42 versets abrogés, mais il y en a eu d'autres. On a retrouvé une liste qui date du 11e siècle et qui mentionne jusqu'à 238 versets abrogés. La forme la plus commune d'abrogation est celle où Dieu annule une règle, mais où l'on conserve le verset lui-même dans le Coran. Pour mieux comprendre comment s'applique le principe de l'abrogation, comparons trois versets qui parlent du vin à boire. La sourate 16, 67, mentionne le vin comme un cadeau de Dieu, tout comme la nourriture. La sourate 2, 219, dit que du vin, on peut attendre le pire et le meilleur, mais que le pire est souvent plus probable. La sourate 4, 43, met en garde les croyants contre le fait d'arriver ivre à la prière. La sourate 5, 90, dit clairement que le vin et le jeu sont des œuvres de Satan. On voit bien ici que le concept d'abrogation vise à résoudre des incohérences qui mettent en péril la cohérence d'ensemble du Coran tout entier. Il ne peut pas indiquer une chose à un endroit et une chose contraire à un autre endroit, et sert à clarifier la datation des passages.